L'histoire sainte est une histoire de libération. On pourrait presque la faire remonter au chapitre 3 de la Genèse lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et que Dieu met des anges au glaive fulgurant pour en garder l'entrée, comme une annonce que l'homme pourra venir de manière renouvelée en ce lieu qui est le lieu de la communion avec Dieu. Mais il y aura Noé où l'homme est sauvé de la perversion de l'homme pécheur. Il y aura Moïse où l'homme sera sauvé de l'esclavage d'Égypte dans l'Exode. Il y aura le retour d'exil après l'exil à Babylone. Mais tout cela ne sont que des annonces de la libération unique, nouvelle et définitive, l'homme définitivement libéré de la mort et du péché qui conduit à la mort. Dans la résurrection de Jésus, Dieu remporte pour l'homme une victoire certaine et définitive en notre humanité. Dans la personne du Christ ressuscité se joue une absolue nouveauté et une nouveauté définitive que nous ne risquons pas de perdre. C'est la vie plus forte que la mort, la vie débarrassée de la mort, la vie délivrée du péché. Cet acte-là est unique. L'histoire a basculé, l'histoire des hommes a basculé sur ce moment-là. Et il est heureux que nous continuions de compter dans le monde entier les années, à partir de la naissance symbolique, point de vue date, du Seigneur Jésus, l'unique sauveur de tout homme. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur cette question des sacrifices, car dans toutes les religions, on retrouve cette action du sacrifice, où quelque chose est donné à Dieu, et donc l'homme y renonce, quelque chose est donné à Dieu pour favoriser la communion de l'homme avec Dieu, ou pour obtenir de Dieu quelques faveurs. Souvent, ces sacrifices sont des sacrifices sanglants. L'usage des animaux est courant, notamment en Israël, où Dieu donne une codification très précise pour les sacrifices de communion, pour les holocaustes, et un animal est tué. Sa chair est brûlée, soit totalement, soit partiellement, et comme symboliquement, Dieu donne à l'homme une partie de la victime sacrifiée en signe de communion. Dans certaines religions, et la Bible exprime une condamnation très ferme là-dessus, il y a des sacrifices humains, notamment le sacrifice des nouveau-nés. Les archéologues ont pu retrouver dans les fondations de portes de ville des ossements de nouveau-nés qui ont été sacrifiés et enterrés là, comme pour une offrande au Dieu pour protéger la ville. Ce qui est très nouveau, très unique et qui fait que le christianisme n'est comparable à rien d'autre, et qu'on peut faire tous les tableaux sociologiques qu'on veut pour comparer les religions, on ne comprendra pas la valeur particulière du christianisme, qui est que l'unique victime du sacrifice, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et qui se livre pour nous arracher au péché et à la mort. Nous n'aurons pas trop de l'éternité pour contempler cette chose incroyable. Dieu lui-même se fait homme, c'est Jésus, et il livre sa vie comme l'agneau immaculé. Il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre victime que Dieu lui-même. Et en disant cela, me vient à l'esprit la phrase du prophète Isaïe, la phrase de Dieu dans le prophète Isaïe, où Dieu dit au fils d'Israël, « Par tes péchés, tu as fait de moi un esclave. » Et Paul nous dira dans la lettre aux Romains que l'homme pécheur est ennemi de Dieu. Et par son unique sacrifice, où le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, se livre tout entier à la bonté du Père pour nous arracher au péché et à la mort, par son unique sacrifice, il fait des ennemis de Dieu que nous étions ses amis. Et lorsque Jésus nous apprendra « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui nous haïssent », il ne fera rien d'autre que de nous révéler ce qu'il a fait avec chacun de nous. Lorsqu'au nom d'une religion, lorsqu'au nom de Dieu, des hommes viennent tuer d'autres hommes et se font eux-mêmes mourir avec la plus grande violence, espérant dans leur mort tuer le plus grand nombre possible de ceux qui les entourent, nous sommes là devant la perversion du sacrifice religieux. La perversion qu'il nous faut dénoncer. Et je vous invite à relire le discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne, qui a été à l'époque tant décrié dans les médias et qui était une parole prophétique pour nous aider et pour aider le monde musulman à faire entrer la raison dans l'acte religieux. Et nous qui sommes disciples du Christ Jésus, le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu, nous avons pour mission de transmettre la parole de Dieu et cette sagesse dans le monde, y compris à nos frères musulmans. En célébrant le 80e anniversaire de l'association familiale de la paroisse, nous pouvons nous demander ainsi comment nos familles peuvent jouer un rôle. Quel est ce que Dieu attend de nos familles? Eh bien, avant de répondre à cette question, arrêtons-nous un bref instant sur la figure du Fils de l'homme. Au milieu de la grande détresse, de l'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, ce qui nous évitera à tout jamais d'aller lire un horoscope. Je suis sérieux. On voit le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Une interprétation de cette figure du Fils de l'homme est la suivante. Il semblerait que Jésus parle de lui sous cette expression « Fils de l'homme », lorsqu'il y associe ses disciples. Quand Jésus annonce que le Fils de l'homme sera livré, il annonce en même temps que les disciples eux-mêmes seront livrés. Lorsqu'il annonce que le Fils de l'homme vient dans les nuées avec grande puissance et avec gloire, il annonce aussi que ses disciples sont environnés de cette puissance et de cette gloire. Et nous pouvons voir derrière la figure du Fils de l'homme se profiler celle de l'Église. L'Église, épouse du Christ, qui partage sa vie. Cela rejoint la logique du livre de l'Apocalypse, où au milieu de ces détresses qui ne cessent de s'accumuler, tout à coup arrive l'Église descendant du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une épouse parée pour son époux. L'Église qui est donnée dans la suite du mystère du Christ pour être au milieu des hommes, non seulement la présence agissante du Christ, mais le lieu où le royaume commence à se donner à vivre, le lieu où le royaume est présent. Nous sommes à la fois livrés avec le Christ livré et nous sommes aussi par le baptême, ressuscité avec le Christ ressuscité, manifestant dans le monde la présence bienheureuse du royaume. Et quel est ce royaume? Qu'est-ce qui caractérise le royaume? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. L'Église n'est rien d'autre, d'une certaine manière, que l'école de l'offrande de soi pour aimer comme Dieu aime. Elle est le lieu où l'Esprit Saint est donné en plénitude. Elle est le lieu de la rémission des péchés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés, que nous puissions grandir dans cet amour. Et pour grandir dans cet amour, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons besoin de la foi dans le Christ ressuscité et nous aurons besoin de l'espérance des biens à venir, c'est-à-dire que notre cœur soit davantage préoccupé des choses d'en haut, comme dit Paul dans la lettre aux Colossiens, plutôt que des biens de cette terre. Et que nous soyons davantage préoccupés dans quelques semaines par le fait d'accueillir Jésus dans notre vie plutôt que d'accueillir des cadeaux à Noël, même si ces cadeaux traduisent quelque chose de la générosité de Dieu. L'Église est une école de l'amour. Nos familles doivent être des écoles de l'amour. Et il faut que nous nous organisions dans nos vies familiales pour avoir le temps de nous aimer. Peut-être vous dites-vous, mais nous passons notre temps à nous aimer. Oui, mais l'amour nécessite aussi de perdre du temps ensemble. L'amour nécessite aussi d'être heureusement ensemble, sans rien avoir à faire d'extraordinaire. Comment est-ce que nos familles sont cette école de l'amour chrétien ? S'aimer les uns les autres à la manière du Christ. Comment est-ce que le lavement des pieds est présent dans notre vie familiale? Je l'ai déjà dit ici, en suggérant que dans nos familles, nous puissions de temps en temps vivre la liturgie du lavement des pieds, en nous lavant les pieds les uns aux autres. Comment est-ce que l'esprit de service est développé par chacun, les parents étant les premiers serviteurs les uns des autres et l'époux étant le premier signe du serviteur? Comment est-ce que nos familles sont des lieux de réconciliation? Réconciliation entre époux, ne jamais se coucher sur une dispute, toujours s'être pardonné. Comment est-ce que les parents savent aussi parfois demander pardon à leurs enfants parce que aucun parent ne sait tout bien faire et tous les parents font des erreurs, tous les parents commettent des péchés envers leurs enfants. Est-ce que nous savons demander pardon à nos enfants? Comment est-ce que nous aidons nos enfants à se pardonner les uns les autres, non pas comme une injonction « pardonne-lui » ou « demande-lui pardon », mais comme une humble demande, comment est-ce que l'on conduit à vivre ce pardon en famille? Mais aussi, puisque Jésus nous dit « mes paroles ce monde passera, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », comment est-ce que la parole de Dieu a droit de citer dans notre vie familiale, très concrètement? Comment est-ce qu'elle est une référence pour notre vie commune? Il ne s'agit pas seulement de lire ensemble la parole de Dieu, quoique c'est une bonne idée, par exemple de lire l'évangile du dimanche à un moment de la semaine pour s'y préparer et peut-être avoir un échange dessus. Comment est-ce que nos références sont la parole de Dieu pour grandir? Comment est-ce que nous apprenons à mener le combat spirituel? Vous avez entendu dans la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ, assis pour toujours à la droite de Dieu, attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Je l'ai dit tout à l'heure, des ennemis que nous étions, nous, hommes pécheurs, Jésus a fait de nous ses amis. Il n'y a donc plus aucun homme qui soit ennemi pour Jésus, puisqu'il fait de tout homme pour qui il a livré sa vie un ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, qui sont les ennemis du Christ? C'est le diable et ses anges. Il attend que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par qui Par qui? Par nous? Par nous qui sommes membres de son corps, par le baptême. Le Christ nous a appelés pour que nous travaillions avec lui à mener le combat spirituel dont il a déjà remporté la victoire, si bien que nous sommes dans la même situation que Josué quand il va conquérir la terre promise. Cette ville, je l'ai livrée entre tes mains, conquiers-la. Le Satan est désormais vaincu dans le Christ. Va le mettre sous les pieds du Christ. Comment ? Par le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel ? C'est de commencer à appeler le bien « bien » et le mal « mal » en se référant à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église qui commente avec justesse l'enseignement du Christ. La première conversion, c'est la conversion de l'intelligence où j'accepte que Dieu me dise ce qui est vraiment bien et donc j'accepte que soit dévoilé dans ma vie ce qui est vraiment contraire au bien et à la bonté. Et la suite du combat spirituel, c'est de travailler à déraciner en moi le péché. Et il y a des déracinements qui vont prendre toute la vie jusqu'à notre dernier souffle. L'essentiel sera de ne jamais renoncer, de ne jamais baisser les bras. Le combat spirituel est le combat de l'intelligence et le combat de la volonté. L'intelligence, pour accepter que Dieu nous dise ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal. Et le combat avec la volonté pour travailler à parvenir dans la grâce de l'Esprit Saint qui vient affermir notre volonté pour faire le bien que notre intelligence nous aura montré. C'est cela le combat spirituel. C'est ainsi que nous mettrons le diable sous les pieds du Christ. C'est ainsi que nous ferons reculer la barbarie. La seule liberté sur laquelle j'ai prise dans ma vie, c'est la mienne. La seule portion d'humanité que je peux vraiment améliorer, c'est ma vie, c'est moi. Et les confessionnaux font partie de ces lieux magnifiques où nous pouvons mettre sous les pieds du Christ le diable et ses anges. Enfin, il nous faut porter dans la prière le monde dans lequel nous vivons. Ce monde, Saint Jean nous dit, Jésus dit à Nicodème dans Saint Jean, que Dieu l'a tant aimé qu'il a donné le Fils unique. Ce n'est pas le monde de l'époque de Jésus, c'est notre monde aujourd'hui. Dieu a tant aimé notre monde qu'il a donné le Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Laissons cette phrase résonner dans notre cœur en repensant aux événements de vendredi, sans craindre d'autres événements à venir éventuellement. Pensons à cet amour de Dieu pour notre monde blessé, douloureux, afin que Dieu puisse faire grandir en notre cœur cet amour et que par cet amour croissant pour ce monde-ci, nous trouvions les chemins politiques, économiques, associatifs, pour construire une paix juste et durable. Et dans cette paroisse où nous avons la grâce d'avoir au milieu de nous tant de militaires, je voudrais que nous n'oublions pas de prier pour eux, de demander pour eux la grâce du courage et de la sagesse. Et comme les militaires ont une mention spéciale dans la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Je voudrais, en terminant, lire les quelques lignes qui terminent le numéro 79 de cette constitution. Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu'ils se considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de cette tâche, ils concourent vraiment au maintien de la paix. Amen.